15h02 sur Grand Sud FM, merci d'être avec nous, passez un bon après-midi et comme prévu, nous repartons au Salon du Livre du Grand Narbonne, on retrouve Marilyn avec un premier invité.
Et oui, notre premier invité cet après-midi, c'est Olivier Poivre d'Arvor, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes diplomate, vous êtes écrivain, vous êtes philosophe de formation, vous êtes auteur déjà de nombreux livres et vous êtes aujourd'hui l'ambassadeur pour les pôles et les enjeux maritimes au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et vous êtes venu nous présenter votre dernier roman, ça s'appelle « Deux étés par an ». Alors « Deux étés par an », les personnages principaux sont deux oiseaux, Jet et Lily. Pourquoi avoir fait ce choix ?
D'abord, « Deux étés par an », peut-être une explication pour nos auditeurs. C'est à peu près ce qui va nous attendre dans disons 20, 30 ans, 40 ans. Mais surtout, c'est ce que vivent aujourd'hui ce qu'on appelle les oiseaux migrateurs, parmi lesquels les plus réputés et ceux qui parcourent le plus de distance sont les sternes arctiques. Et mon couple de sternes, qui a 30 ans, qui est à peu près l'âge maximum de ces oiseaux, va faire sa dernière migration du nord du monde, du pôle nord, au pôle sud, de l'Arctique à l'Antarctique. Et c'est un trajet incroyable, hein, c'est 40 000 km aller, 40 000 km retour. Et c'est pas du tout de la fiction pour le coup, ça c'est vraiment ce que font tous les ans ces oiseaux parce qu'ils cherchent finalement la chaleur, le soleil, la nourriture, la lumière. Et donc avec le réchauffement climatique évidemment en Arctique, c'est assez facile de vivre un peu longtemps. Ils font leurs enfants là, un petit sterne à chaque fois. Et puis après, ils redescendent en Antarctique chercher la nourriture et la lumière, parce qu'évidemment, avec le cycle des hémisphères, on a deux étés par an. Et j'ai voulu raconter comment les oiseaux percevaient notre monde. Parce que nous, on a une vision, tout le monde est sûr d'avoir son opinion sur le monde, ça va mieux, ça va moins bien, ça va aller... Mais en fait, ceux qui sont les mieux placés à mes yeux, c'est vraiment ceux qui survolent et qui voient les choses de haut. Et donc, je me suis attaché à ces deux personnages qui, pour ceux qui liront, verront qu'ils ont... Ils vont avoir des trajets un peu contrariés parce qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment et ils vont faire finalement le tour du monde, ils vont pas faire qu'un trajet du nord au sud.
Donc Jet et Lily, l'histoire, ils la vivent en 2048, donc on va dire que vous vous projetez dans les années qui viennent. Est-ce que vous nous emmenez en fait, Olivier Poivre d'Arvor, vers le désastre environnemental, si je puis dire, qui nous attend peut-être?
Non, en fait, on le survole d'une certaine manière, on voit avec les oiseaux, le regard des oiseaux et puis... Un autre personnage qui les accompagne, qui est cet homme oiseau, qui peut ressembler éventuellement à l'écrivain, mais en tout cas qui est là pour être avec eux. Parce que voler, c'est finalement dans le fond la conquête qui nous manque aujourd'hui. On sait tout faire presque, mais ça on n'a pas réussi, malgré nos rêves. Et là, en survolant le monde, finalement, on prend un peu de distance. On voit que les choses changent beaucoup, que les paysages changent, que ce qui est riche devient pauvre, que les migrants vont d'un sens comme dans l'autre, que le réchauffement... fait basculer complètement les économies et puis la manière d'être, et que dans le fond le sujet pour les hommes que les oiseaux voient, survolent, ça va être l'adaptation. Et en fait, au terme du roman, alors que tout paraît en effet foutu, parce que tout le monde pense que c'est foutu là aujourd'hui, et qu'on va dans le mur, mais enfin bon, ça fait des millénaires qu'on va dans le mur, mais là depuis, c'est vrai, un siècle et demi avec la production d'énergie fossile, d'hydrocarbures, on y va nous-mêmes en choisissant, en conduisant la voiture dans laquelle on va se cracher. Mais là, on va découvrir que finalement, il y a un élément magique, qui est l'élément du vivant, de la nature, et où ce besoin de nature est plus fort que tout. Et dans la négociation qu'il doit y avoir en 2048, dans ce continent antarctique, entre les États qui sont prêts à tout foutre en l'air, eh ben, la sagesse des oiseaux va parler. Et on va, a priori, être sauvés. Voilà.
Alors, est-ce qu'on peut dire quand même que c'est un signal d'alarme que vous tirez ?
Par mes fonctions, oui, parce que ambassadeur des pôles, j'ai tous les jours des données qui montrent la dégradation de ce qu'on appelle la calotte du Groenland ou celle de l'Antarctique, donc la fonte de la cryosphère avec les effets que ça a sur la montée des eaux. Hein, 2100, a priori, en 2100, c'est bientôt quand même, 2 mètres d'élévation du niveau de la mer à l'échelle globale. Narbonne sous l'eau, là, vraiment, le Grand Narbonne sous l'eau. Mais pas que vous, plein d'endroits évidemment, et surtout des régions entières d'Asie, et 1 milliard de personnes seront affectées par cet élément-là. Simplement, je crois une chose, c'est qu'on va s'adapter. Chacun doit y penser à son niveau, le citoyen, le romancier aussi, qui doit d'une certaine manière parler de cette réalité sans dire on est foutu, les pétroliers sont monstrueux et les environnementalistes ont raison. Non, les êtres humains sont sur la même planète, il y aura 10 milliards de personnes en 2050, c'est-à-dire qu'on va quand même passer à une échelle très grande, les 3/4 d'entre eux vont vivre au bord de la mer, ils vont être affectés par ça. c'est surtout un message poétique, enfin, dans le fond, dire il faut revenir à la beauté, il faut revenir à l'économie peut-être des choses et être un peu plus prudent que nous le sommes. Et donc finalement aussi, passer le plus vite possible aux énergies douces, renouvelables. Et ça, on n'en prend pas complètement la route aujourd'hui.
Oui, c'est vrai. On verra dans les années qui suivent. Il y a mouvement, comme vous dites. Mais
les gens le savent depuis à peine 10, 20 ans, 30 ans. Et donc, c'est une donnée nouvelle dans nos têtes, dans nos manières d'être, de produire, de consommer, d'être au monde, dans la relation. Donc, j'ai assez d'espoir sur quant à la communauté humaine, in fine.
Eh bien, on verra dans quelques années ce que ça donne, si vous aviez raison, Olivier Poivre d'Arvor. En tout cas, on revient un petit peu à votre roman, « Deux étés par an ». Dans ce roman, c'est les oiseaux qui, finalement, vont prendre le pouvoir.
Oui, d'abord parce que je crois beaucoup à ça. Je pense qu'une partie de la création de ce qu'on appelle l'humanité, de l'homme, de l'être humain, a été de combattre le sauvage, de combattre l'animal, la dangerosité. Donc, et en fait, le rapport est assez inversé aujourd'hui. Dans le fond, les animaux sont beaucoup plus nombreux que nous. Les oiseaux sont à peu près 200 milliards, entre 200 et 400 milliards, on ne les a pas comptés, mais sont très nombreux. Et ils nous ramènent à plein de choses, en fait, à des choses qui sont de l'ordre de l'humanité, c'est-à-dire le respect du vivant, le soin, le respect de la différence, pas l'idée que les hommes seraient plus intelligents et que les bêtes seraient idiotes. Ça s'appelle les bêtes, d'ailleurs, quand même. Et donc, tout ça est assez intéressant. Il y a un rapport que les êtres humains ont de plus en plus avec ce vivant-là, avec des nouvelles pratiques culinaires, avec un nouveau rapport à l'alimentation, avec ce besoin de retrouver quelque chose de la nature parce qu'elle est menacée, justement, parce qu'elle est belle, tout simplement. Et je pense que ces oiseaux, qui dans l'Antiquité, quand on les sacrifiait, dans le foie des oiseaux, on trouvait la vérité, on trouvait les présages. Ces oiseaux nous disent beaucoup, ils nous alertent, et je pense que c'est eux qui vont nous alerter mieux que les prophètes de malheur ou les diplomates ou les politiciens, parce qu'on les croit plus tellement, tout cela. Dans le fond, le vivant, on le croit. Or, ce qui se passe dans le roman, vous le verrez, enfin, pour ceux qui le liront, c'est que il y a plein d'oiseaux qui sont concernés par ça, notamment les aigles, les vautours, ceux qui se trouvent en haut de l'Himalaya, parce que les glaciers vont fondre, les perroquets de la forêt amazonienne. Donc, ils sont convoqués là parce que ils sont en danger d'extinction, mais ils vont faire en sorte de résister et ils vont nous apprendre le chemin de l'adaptation qui est le seul possible.
Bon, c'est eux qui vont nous guider et c'est eux qui finalement donnent ce signal d'alarme. Alors, votre livre, je ne sais pas si vous avez eu ce film hein, de Nicolas Vanier, Olivier Poivre d'Arvor, « Donne-moi des ailes ». Dans ce film, c'est pas des sternes, mais c'est des oies. Et c'est un enfant qui a pour projet de sauver une espèce d'oie naine en voie de disparition. Et son objectif, c'est de guider ses volatiles vers un chemin de migration plus sûr en les accompagnant dans les airs. Et il est à bord de son ULM. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a inspiré ou pas ?
Pas ce film particulièrement, mais ce que vous m'en dites correspond à un moment comme ça où l'animal nous est indispensable, pas uniquement pour se nourrir, pas uniquement pour chasser, mais on a besoin à travers lui de retrouver des chemins, des voies, des routes. Or ces routes sont menacées pour les animaux migrateurs par exemple, je pense à deux animaux qui sont présents dans mon roman, qui sont les manchots empereurs et les ours polaires. Les ours polaires c'est dans le nord. Avec la fonte de l'Arctique, ils vont disparaître, les ours blancs. Et puis les manchots empereurs, ils ne savent pas s'adapter, les ours polaires. Ils peuvent pas aller ailleurs. Et les manchots empereurs, c'est pareil. C'est des animaux qui veulent rester chez eux. Et dans le fond, c'est des symboles très forts, comme le panda est un symbole pour le monde asiatique, particulièrement la Chine. Mais ils sont le symbole de ce que nous ne devons pas devenir, c'est-à-dire une espèce non pas en voie d'extinction, parce qu'elle se multiplie au contraire. Je ne sais pas s'il faut du réarmement démographique, je ne suis pas certain parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde sur la planète, moins chez nous en Europe, mais le 1,4 milliard d'habitants en Chine, qui est exactement le même 1,4 milliard à ce moment précis en Inde, montre que tout bouge. L'Asie devient le continent plus peuplé, l'Afrique va le redevenir. Et dans le fond, j'essaye moi de dire que par le roman, d'abord, on peut rêver, et ça, c'est une vraie on rêve de moins en moins. On est vraiment dans la réalité. On rêve pas avec les réseaux sociaux. Mais on rêve avec la fiction, la littérature, avec le désir. Et les rêves deviennent des réalités. L'aviation, c'est devenu un rêve parce que on est parti de l'idée que les oiseaux pouvaient voler, qu'on allait pouvoir voler. C'est un petit appel qui peut paraître tout à fait naïf ou utopiste face à ces grands sujets économiques, mais j'y crois fondamentalement.
Alors, on me fait signe qu'il vous reste 3 minutes avant d'aller à l'espace rencontre. Juste, Olivier Poivre d'Arvor, dans ce livre, cet homme amoureux de la nature qui rêve, comme vous le dites, aujourd'hui il faut rêver, est-ce que c'est vous ?
Écoutez, c'est nous tous, je pense. C'est nous tous, c'est vous, c'est ceux qui nous écoutent aussi. Ce besoin de nature, il est d'autant plus fort qu'on vit dans des mondes industriels ou dans des grandes villes, ou qu'on est évidemment très associé à la technologie, qu'on est très dépendant de cette technologie. Or, il faut vraiment lâcher les téléphones, il faut lâcher les portables, il faut lâcher les réseaux sociaux, parce que ça rend pas heureux, en fait. Ça rend pas heureux un peu, mais ça permet d'avoir une communion avec des gens, mais pas toute la journée. On n'est pas prêt à communier toute la journée avec le reste du monde, si vous voulez. Et je pense que la solitude, le silence, la lecture, l'art, la création, l'amour, la promenade, enfin, toutes ces choses-là sont vraiment à reconsidérer comme étant l'essence même de la vie, du vivant, du bonheur, de l'équilibre, du bien-être.
Donc finalement, ce roman, Olivier Poivre d'Arvor, 2 étés par an, il s'adresse à tous ces gens qui ont envie de découvrir la nature, qui ont envie d'être heureux, qui ont envie de vivre, comme vous dites.
Oui, moi je sais que ça a beaucoup compté pour avoir un métier qui me fait beaucoup voyager, qui avec des horaires assez étranges comme ça, et même très étranges, d'être complètement décalé. Si j'avais pas ce retour que je fais aujourd'hui avec la Méditerranée, avec ce sud de la France, mais aussi les pays où j'ai pu vivre, où les rythmes sont plus lents et où le temps passe lentement, je serais pas aussi bien que je suis à l'âge où je suis. Donc oui, pour moi en tout cas, mais je crois que je ne suis qu'un parmi les quelques 9 milliards d'habitants qui ont vraiment besoin d'un peu de repos et d'un peu de répit.
Bah là justement, vous allez pouvoir prendre un peu de repos, je sais pas, mais en tout cas, vous allez pouvoir aller vous installer et partager un moment de rencontre. Hein. Ça commence dans une minute, je pense, donc je vais vous libérer. Jusqu'à 16h, c'est sur la partie échange, l'espace événement. Olivier Poivre d'Arvor qui vous attend pour échanger avec vous. Et puis je rappelle que si on veut venir vous voir, si on veut une dédicace pour ce roman 2 étés par an, on vient avant 17h parce que vous êtes aujourd'hui, cet après-midi, sur le Salon du Livre, mais vous n'y serez pas demain.
Absolument. Et là, je vois passer l'eau, le canal. C'est très apaisant. Voilà. Et merci de cet échange, en tout cas. Et vive Narbonne, que je découvre, qui est d'une beauté absolument incroyable, magnifique.
Bah, merci beaucoup pour cet échange et à très bientôt et bon Salon du Livre.
Merci à vous. Merci.
Voilà, donc Olivier Poivre d'Arvor, c'est le stand numéro 14, le stand de Cultura, donc n'hésitez pas. Nous, on va continuer avec d'autres auteurs, je vais aller rejoindre Benjamin. Je vais juste vous dire que vous avez jusqu'à 16h pour déposer votre bulletin de participation. Vous savez que les commerçants du comité En Ville ont caché des livres, les livres des auteurs invités sur le salon, dans 33 vitrines, donc venez voir les commerçants. Vous remplissez votre bulletin, on met la boutique, le titre du livre, le nom de l'auteur et on le dépose surtout avant 16h dans l'urne de l'Office de tourisme de la Côte du Midi. On sera demain au Hall à 11h pour le tirage au sort et l'annonce des gagnants et des prix. C'est gratuit, profitez-en. Voilà Jean-Michel, je vais aller rejoindre Benjamin. Je crois que je suis aussi sur le stand de Cultura. Donc à tout à l'heure.
À tout à l'heure Marilyn, il est 15h16, vous écoutez Grand Sud FM et on se retrouve juste après une courte pause. Bon week-end avec Grand Sud FM, excellent après-midi. Nous sommes toujours en direct du cours Mirabeau à Narbonne pour le Salon du Livre de Grand Narbonne. Et on va retrouver tout de suite Benjamin avec une nouvelle invitée.
Oui, tout à fait Jean-Michel, nous continuons ce Salon du Livre du Grand Narbonne en direct sur Grand Sud FM où je me suis arrêté au stand 14 de Cultura pour être en compagnie d'Ophélie Neyman. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes journaliste, critique de vin, vous écrivez notamment pour Le Monde. Alors, on pourrait croire que le vin, c'est compliqué, mais on a l'impression qu'avec vous, eh bien, ça peut être simple. Quel est le secret, tout simplement ?
Bah, d'abord, se faire plaisir, ne pas oublier que le vin, c'est une boisson de convivialité et de plaisir. Moi, j'en veux un peu à cette génération de sommeliers, d'œnologues et de critiques des années 90-2000 qui, je ne sais pas, pour montrer que leur savoir était vraiment intense, ont complexifié, ont donné une vision élitiste du vin. Oui, il y a énormément de choses à savoir. Et oui, être vigneron, c'est un métier très sérieux, c'est un métier compliqué. Mais ce n'est pas pour ça que les consommateurs, eux, doivent hériter de cette complexité. Le vin, c'est d'abord quelque chose qui fait plaisir. Et tous les goûts sont dans la nature. Une fois qu'on se dit ça, on peut commencer à apprendre. On peut commencer par la base, c'est-à-dire les cépages, les variétés de raisins, donc, qui permettent de faire le vin. Ensuite, on peut étudier le climat. Ensuite, on peut étudier la composition du sol. Ensuite, la méthode de vinification. Ensuite, la personnalité du vigneron. Tout ça va concourir. Et puis, enfin, l'effet millésime, bien sûr, hein, la météo de l'année. Tout cela va façonner le vin que l'on boit. Mais on n'est pas obligé d'explorer toutes les strates. On peut choisir simplement un des étages de la fusée.
Alors, vous avez sorti la réédition de votre livre « Le vin, c'est pas sorcier ». Donc, en fait, c'est une bible de référence sur le vin. Donc, une édition revue, une mise à jour. Quelles sont les nouveautés à découvrir par rapport à l'ancienne édition ?
Alors, quand j'ai sorti la première édition en 2013, j'ai essayé de mettre tout ce que j'avais appris sur le vin de façon la plus décomplexée possible. Et puis, on s'est rendu compte au fil des ans que le vin, comme tout, ça changeait. Nos habitudes de consommation évoluent et le vin lui-même évolue. Alors, il y a 10 ans, on se demandait pas, quand on était végétarien, quels étaient les accords entre les mets et les vins. Aujourd'hui, c'est incontournable. Donc, il a fallu rajouter des pages sur, quand on est végétarien, qu'est-ce qu'on choisit comme vin selon les plats qu'on va manger. La place des femmes dans le vin, on se posait pas tellement la question il y a 10 ans. Aujourd'hui, il faut en parler. Elle a beaucoup évolué. Le vin nature, il y a 10 ans, c'était vraiment un vin d'ultra niche connu par 200 personnes. Aujourd'hui, on va trouver du vin nature chez quasiment tous les cavistes. Il faut pouvoir expliquer. Donc voilà, ça montre un petit peu toutes ces nouveautés. Et puis nous-mêmes, on mange un peu moins de viande. On a envie de vin un peu plus léger. Il y a le réchauffement climatique qui va faire que ça change aussi la composition, le taux d'alcool. Tout ça, il faut le raconter. Il fallait le mettre à jour.
Alors, Miss Glouglou, c'est votre surnom. Par rapport au blog que vous teniez en 2009, que trouve-t-on dans cette bible qui met à l'honneur le vin ?
Alors, moi, j'avais créé le blog en 2009 pour effectivement apprendre le vin et raconter ce que j'apprenais. Et puis, quand en 2013, on m'a proposé de faire Le vin, c'est pas sorcier, j'ai puisé un peu tout ce que j'avais appris dans ce blog. Il s'appelait Miss Glouglou, ou plutôt Les tribulations vinicoles de Miss Glouglou, parce que là encore, je voulais pas qu'on se prenne au sérieux. Alors, je faisais beaucoup d'interviews décalées avec les producteurs de vin, où je leur demandais de me raconter quel livre ils aimaient lire, quel film ils aimaient, quel type de musique. Je voulais raconter le vin par ceux qui le font, mais par leur personnalité, par leur goût. Et puis montrer que vous aussi, en fonction de vos goûts, il y a des choses, effectivement, qui vont guider vos choix. On peut un peu percevoir selon ce que les gens aiment manger, selon la façon dont ils aiment la vie. Et tout ça, je voulais le remettre dans un livre. Est-ce que vous aimez plutôt les vins vieux ou les vins nouveau. Et puis, toutes les questions qu'on se pose, comment on enlève efficacement des taches de vin, comment on soigne une gueule de bois, une fois que le vin est ouvert, qu'est-ce qu'on en fait, et qu'est-ce qui se passe si on sent rien, ou si ce qu'on sent sent mauvais, et si le vin est vraiment mauvais, qu'est-ce qu'on fait, comment on identifie les défauts. Et puis après, évidemment, tout ce qui a trait à la dégustation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on sent, comment est-ce qu'on apprend à reconnaître des arômes, comment est-ce qu'on détecte les tanins, comment est-ce qu'on les évalue, et puis comment on évalue la longueur d'un vin, et un bon accord, c'est quoi. Tout ça, il faut en parler. Et après, évidemment, la vinification, comment on fait des vins effervescents, du vin rouge, du vin... Alors, on parlait des nouveautés. Le vin orange aussi, voilà une nouveauté, il fallait l'expliquer. Voilà, on va trouver un petit peu tout ce qui a trait au monde du vin et autour du monde du vin.
En tout cas, ça fait beaucoup de questions, tout ça.
Oui, alors j'essaye d'y répondre, mais j'ai essayé de me demander toutes les questions que moi-même je me suis posées, comment y répondre pour les lecteurs.
Alors, pour les néophytes, Ophélie Niemann, quel conseil donneriez-vous ?
Alors, encore une fois, se faire plaisir et puis, si possible, trouver un guide. Un guide dans lequel on a confiance, un guide qui ne va pas vous perdre, donc pas un guide élitiste qui va vous noyer d'informations et de vocabulaire technique, mais quelqu'un qui puisse vous dire, voilà, les corbières, ça ressemble à ça. On attend en blanc tel type de vin, on attend en rouge tel type de vin. Et après, vous faire goûter autour d'un archétype différents vins pour que vous puissiez un peu vous dire, ah oui, celui-ci est plus floral, celui-ci est plus fin, celui-ci est plus gourmand, celui-ci est plus puissant. Il faut imaginer toute une galaxie et voir, essayer de voir où le vin se situe, à quel niveau, quelle étoile dans cette galaxie. Donc pour moi, il faut être accompagné de quelqu'un qui puisse vous dire voilà un vin typique, voilà un vin atypique, voilà un vin de gastronomie, voilà ce qu'on attend d'un vin de gastronomie. Et il faut goûter avec lui pour sentir les différences. Et le mieux, évidemment, c'est de faire des dégustations. Pas forcément de boire du vin, on peut le cracher, mais au moins déguster plusieurs vins d'une même appellation pour figurer dans son esprit à quoi ça ressemble.
En tout cas, on peut vous retrouver à l'espace rencontre donc aujourd'hui de 18h à 18h45. Donc le vin, c'est pas sorcier, avec vous, Ophélie Niemann. Donc ce sera au CIVL, au 6 Place des Jacobins, à Narbonne, c'est ça?
Tout à fait.
Eh bien, merci en tout cas, Ophélie Niemann, d'avoir répondu à mes questions sur Grand Sud FM. On peut vous retrouver sur le stand de 14 de Cultura. Merci beaucoup.
Merci à vous.
À Jean-Michel, nous allons continuer eh bien le tour d'horizon des auteurs sur ce salon du livre du Grand Narbonne. On rappelle que c'est gratuit, donc n'hésitez pas à venir nous voir nombreux.
Merci Benjamin, on se retrouve dans les prochaines minutes. Pour l'instant, un petit peu de musique sur Grand Sud FM, c'est avec Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman avec Envole-moi sur Grand Sud FM, il est 15h36, merci d'être avec nous, excellent après-midi, nous sommes toujours en direct du Salon du Livre du Grand Narbonne et tout de suite on retrouve une nouvelle invitée au micro de Marilyn.
Tout à fait, sur ce Salon du Livre du Grand Narbonne, hein, venez nous rejoindre sur les barques, je suis en compagnie de Marie Nimier qui est une autrice qui bouge beaucoup, 17 romans publiés chez Gallimard, dont La Reine du Silence, avec le prix Médicis. Vous êtes auteur de chansons pour Juliette Gréco, Morane, Elie Mitchell, je peux pas tous les citer, d'albums jeunesse et de pièces de théâtre. Bonjour.
Bonjour.
Donc Marie Nimier, on va parler bien sûr de votre dernier livre publié, Confidences tunisiennes, toujours chez Gallimard. C'est un roman qui est fait de confidences que vous avez recueillies en Tunisie.
Oui, alors je ne sais pas si on peut appeler ça un roman, ça serait plutôt un recueil de nouvelles, finalement une cinquantaine de textes qui peuvent être très courts, une demi-page, qui peuvent faire aussi 20 pages, qui sont basés sur des rencontres que j'ai, des paroles de Tunisiens que j'ai réellement rencontrés. Mais étant moi-même romancière, le pacte n'est pas un pacte de journaliste ni de sociologue, mais plutôt un pacte de transformation, de métamorphose, tout en gardant bien la base de ce qu'on m'a raconté, d'en faire quelque chose de littéraire et d'agréable à lire et à partager.
Voilà, Marie Nimier, hein, pour écrire, vous le dites vous-même, vous n'êtes pas journaliste, mais vous vous prêtez quand même à la technique de l'interview pour obtenir vos témoignages que vous chamboulez, modifiez un petit peu après.
Alors, l'idée, vous voyez, quand vous faites une interview, là, vous posez des questions, puis je dois répondre. Alors moi, c'est pas du tout la même chose. Ou alors la question, elle est posée dans une petite annonce qui passe dans un journal et qui dit « Venez, romancière, cherche confidence. J'écoute vos secrets, j'écoute vos confidences, j'écoute ce que vous voulez bien m'apporter, même si ce sont des toutes petites choses qui vous semblent pas très importantes, mais qui vous reviennent souvent à l'esprit, une impression d'enfance, ou quelque chose de très marquant. Ça peut être aussi, on est venu me raconter des choses terribles aussi, mais aussi beaucoup des choses assez délicates, ou alors des rêves, des aspirations. Une histoire d'amour, un amour pour un métier d'ailleurs aussi que l'on pratique et des espoirs ou des déçoirs et tout ça avec cette idée, ils le savent dès le départ qu'ils vont venir vers moi me raconter des choses qui vont être transformées, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir les reconnaître et ça c'est très très important, surtout dans un pays comme la Tunisie où il y a beaucoup de choses que l'on doit cacher, qu'on pourrait pas raconter à sa famille parce qu'il y a les coutumes, les traditions, parfois la religion qui empêche la totale liberté de parole. Et donc tous ces gens sont venus en sachant qu'ils étaient protégés aussi par la fiction.
Et ça, j'imagine que c'est très important. Ça vous a permis de sortir, comme vous me dites, ce recueil de témoignages, confidences tunisiennes, Marie Nimier. Marie Nimier, vous êtes une autrice, vous avez soif d'écriture, mais l'écriture sous toutes ses formes, hein, parce que, on l'a dit tout à l'heure, vous écrivez des chansons, pièces de théâtre, et vous écrivez aussi pour le jeune public, et aujourd'hui, vous en avez deux. Donc, Miss Mousse et Au bonheur des lapins.
Oui, je suis venue avec... j'ai demandé qu'il y ait des livres jeunesse aussi, pour que... d'ailleurs, c'est... Ça marche très bien. Les gens viennent acheter ces livres alors que dans tout le rayon, bon, c'est plutôt des livres de littérature, des romans, des enquêtes, etc. Puis là, il y a ces deux petits livres jeunesse et c'est, les enfants s'en emparent. Et tout à l'heure, il y avait un petit Elliot. Donc, s'il m'écoute, bonjour Elliot. Il était haut comme trois pommes. Il arrivait juste à la table et il avait son doudou. Et j'ai dit, il est beau ton doudou. Alors, il m'a regardé comme ça. Puis, il a regardé le livre. Il m'a plus regardé. Et puis, il voulait prendre le livre. Alors, sa maman lui a dit, non, non, touche pas. J'ai dit, mais si, surtout, touche, viens toucher le livre. C'est bien, c'est fait pour toucher, c'est fait pour regarder. Alors, il a pris le livre. Il s'est assis par terre. Et il a commencé à lire le livre. C'était vraiment, ça a illuminé ma journée, je dois dire. Alors, bon, venez au salon, venez avec les enfants et touchez les livres.
Voilà, toucher les livres, il y en a un pour les plus petits. En plus, c'est un livre CD, donc ça, c'est super. Parce que les enfants, ils aiment qu'on leur lise des histoires, mais ils aiment aussi les écouter. Hein.
Oui, alors c'est un CD, bien sûr, on peut aussi le télécharger sur Internet si on n'a plus de lecteur CD, parce que ça arrive aussi. Mais il est matérialisé en CD. C'est une maison d'édition qui s'appelle Benjamin Media et qui fait des livres pour tous les enfants. C'est-à-dire aussi bien pour les enfants qui voient que les enfants qui ne voient pas, pour les enfants qui n'entendent pas. Donc, c'est sous forme de CD, c'est sous forme de livre, c'est sous forme de livre en braille. Pour 2 euros de plus, on peut avoir la traduction en braille. C'est en langue des signes. Et moi, je suis très touchée par ça, par cette maison d'édition, parce qu'elle fait déjà, les enregistrements sont très beaux. C'est vraiment des morceaux il y a de la chanson, il y a une mise en musique du texte qui est magnifique. Et puis, ça me touche beaucoup d'imaginer que dans une famille, on peut avoir le même objet pour quelqu'un qui voit, pour quelqu'un qui ne voit pas, pour quelqu'un qui entend et quelqu'un qui n'entend pas, que tous ces gens puissent partager la même histoire.
Voilà, qu'il n'y ait pas de différence finalement.
Voilà, et là il est vendu comme un livre tout à fait normal. On ne pense pas que c'est un livre particulièrement pour des publics, je ne sais pas comment on dit, adaptés, etc. Et je dois dire que je suis très attachée à cette maison d'édition Benjamin Media pour ça. L'autre livre, ça s'appelle « Au bonheur des lapins ». C'est un grand livre, alors illustré avec des couleurs et une imagination débridée par Béatrice Rodriguez. Et voilà, ce que j'ai voulu dire, enfin raconter dans ce livre, c'est qu'on peut raconter une histoire d'un point de vue, mais aussi d'un autre point de vue. Alors, comment faire passer ça? Que l'histoire, finalement, c'est une question de regard. Ça, c'est intéressant pour les petits-enfants. Ils ne se sont jamais posé la question, qui raconte l'histoire? Est-ce que c'est le Père Noël qui raconte sa propre histoire, ou est-ce que c'est l'enfant qui reçoit le cadeau qui va parler du Père Noël, ou est-ce que... Enfin, je prends un exemple comme ça. Voilà, il s'agit d'un lapin qui vient s'installer dans un jardin. Alors évidemment, lui, il est hyper content parce qu'il y a beaucoup de persil dans ce jardin et il fait son terrier, etc. En fait, il détruit le jardin. Et l'autre personnage, c'est celui qui habite dans cette maison, qui est peintre et qui fait la guerre à ce lapin qui lui détruit le jardin. Donc l'histoire est écrite selon les deux points de vue. On peut le lire, on commence à le lire et il se finit au milieu du livre. On retourne le livre et on relit l'histoire vue par l'autre personnage. Et je trouve pour les enfants, mais pour les adultes aussi, c'est intéressant parce que pour un roman, finalement, quand j'aborde l'écriture d'un roman, une des premières questions que je me pose, c'est qui raconte, qui va raconter. Est-ce que c'est un auteur omniscient, quelqu'un qui est un peu au-dessus et qui va dire il, elle, qui va manipuler ses personnages comme des marionnettes, ou est-ce que c'est l'un des personnages, la première personne, qui va raconter son histoire ou l'histoire de quelqu'un d'autre? Franchement, cette histoire de point de vue, pour moi, c'est la question de la littérature, enfin la première question qu'on se pose quand on va écrire un livre.
Marie Ligné, quand on vous voit, on vous sent animé par l'écriture, on vous sent passionné, et je pense que vous captivez les auditeurs en ce moment, en tout cas, je l'espère. Mais l'écriture, vous êtes tombée à quel âge dans l'écriture finalement?
Moi, j'ai commencé par le théâtre. J'ai fait une dizaine d'années de théâtre. J'ai rencontré une troupe de théâtre de rue quand j'avais 15 ans. Je suis un peu partie avec le cirque, donc j'ai ce côté un peu battleur comme ça, et batteleuse. Mais j'ai arrêté vers 25 ans parce que je me suis rendu compte que j'aimais pas être devant les gens. Alors, c'est embêtant d'être comédien, mais j'adorais le travail, en fait. J'adorais tout ce qui était autour du théâtre, mais j'aimais pas j'aimais bien le faire, mais j'aimais pas qu'on me regarde. Donc c'était un vrai problème. Ça m'a posé des graves problèmes psychologiques aussi, parce que du coup, après avoir joué et tout ça, j'étais assez exaltée dans la représentation, mais après je tombais dans des grands moments de dépression et je me suis réparée, disons, parce que je suis tombée vraiment bien bas. Et je me suis réparée en lisant. Ça a été pour moi vraiment ma bouée de sauvetage.
Ah, mais on sent que vous êtes animé par cette écriture et par cette lecture, et puis que vous avez envie de le transmettre, et je pense que c'est important aujourd'hui. Donc si vous avez des enfants déjà, ben, commencez par les livres pour enfants, ça peut être sympa, et puis n'hésitez pas avec Confidence Tunisienne, parce que je pense que ça va vous captiver également. D'ailleurs, le mieux, c'est de venir vous voir à l'espace rencontre, parce que tout à l'heure, Marie Nimier, de 17h15 à 18h, eh bien, les auditeurs pourront vous retrouver à l'espace rencontre du Salon du Livre du Grand Narbonne, sur les barques, hein, je le rappelle. Qu'est-ce que vous allez proposer, en fait? Vous allez échanger, comme là, maintenant?
Oui, j'espère déjà. Je sais qu'il y a des lecteurs qui sont venus, qui ont déjà lu les livres, et puis c'est pas la première fois que je viens à Narbonne, c'est la troisième fois maintenant, donc je commence à avoir un petit peu des fidèles qui vont être là et qui auront peut-être des questions à me poser. Mais sinon, il y a une journaliste qui va animer la conversation, donc franchement, je vais être à son écoute et répondre aux questions qui me sont posées.
Ah, mais les auditeurs, vous avez le temps, hein. 17h15 à 18h, Marie Nimier, et je vous invite à la retrouver sur le stand numéro 17. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous sur Grand Sud FM. Je vous souhaite un excellent Salon du Livre à Narbonne, et qui sait, peut-être à l'an prochain.
Ah, peut-être, ou peut-être tous les deux ans, ça suffit, non? Parce qu'il faut quand même avoir le temps d'écrire.
Oui, il faut préparer le prochain voyage aussi, peut-être, Marie Nimier.
C'est ça, oui. J'ai bien envie, j'irais bien faire ce projet des confidences en Chine. Mais alors, le problème, c'est évidemment, je peux pas partager en français, hein, c'est pas un pays francophone. Et puis, les secrets, s'ils sont dévoilés, peuvent être très dangereux pour les gens qui vont les dévoiler. Donc, je sais pas comment organiser ça, mais j'aimerais tellement aller dans un pays où dans une autre politique, dans un autre monde, dans une autre philosophie aussi. Mais bon, on va voir.
Bon, je vous retrouve dans 2 ans sur le Salon du Livre du Grand Narbonne avec la suite. Alors, Marie Nimier, merci beaucoup.
Merci à vous. Merci.
Allez, voilà, Marie Nimier, ne la manquez pas, un stand numéro 17 et puis à l'espace rencontre de 17h15 à 18h. Je vous rappelle qu'il vous reste quelques minutes pour aller déposer votre petit bulletin de participation. Si vous avez été du côté des commerçants du centre-ville de Narbonne, 33 vitrines avec l'association En Ville, des bons d'achat à gagner, il y avait des livres des auteurs invités sur le salon qui se cachent, 33 vitrines. Donc allez vite le déposer avant 16h. Et demain, 11h, tirage au sort au hall de Narbonne. Voilà, on continue avec d'autres auteurs sur ce Salon du Livre. Je vais aller rejoindre Benjamin. À tout à l'heure.
À tout à l'heure, Marilyn. Et sur Grand Sud FM, petite pause avec quelques conseils de nos annonceurs. Restez avec nous.